Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des Radio Assivières. Moi, c'est Nini Michegas et je me réjouis d'accueillir aujourd'hui au studio des Royères Guillaume Lebody. Bonjour Guillaume.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Alors Guillaume, vous êtes ethnologue, docteur en anthropologie sociale, école des hautes études en sciences sociales, laboratoire d'anthropologie sociale Paris. Vous êtes aussi chercheur associé à l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, IDEMEC du CNRS ex-Marseille Université, mais vous êtes aussi l'auteur de plusieurs publications scientifiques sur les cultures pastorales et la transhumance. Merci d'accepter l'invitation d'être parmi nous.
Merci à vous, c'est un plaisir.
J'ai un peu résumé parce que je pourrais continuer cette présentation et cette introduction, mais on va décortiquer petit à petit à nos auditeurs, nos auditrices qui écoutent cette interview dans le cadre de notre quotidienne. Et ce qui nous mène aujourd'hui à échanger, c'est un projet qui s'appelle Paysages et biens communs. C'est un projet en collaboration entre le Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivière et le PNR. Mais avant de revenir sur ces projets, qu'est-ce que c'est l'ethnologie ?
Qu'est-ce que c'est que l'ethnologie ? L'ethnologie, c'est d'abord s'intéresser aux gens avec beaucoup de bienveillance. Regardez comment les gens vivent, est-ce ainsi que les hommes vivent ? Chantait notamment Léo Ferré. C'est un petit peu la question qu'on se pose avec plein de points d'interrogation. On essaie d'y apporter des questions, mais sans certitude, puisque c'est une discipline scientifique. Et que comme toute discipline scientifique, les conclusions qu'on peut y apporter sont toutes réfutables. Et c'est ainsi que la science avance. Donc c'est ça l'ethnologie, c'est d'abord s'intéresser aux gens, en aimant les gens peut-être surtout.
Et l'objet d'étude de l'ethnologie, c'est la ethnie, c'est ça ?
C'est ça, c'est l'ethnie, mais c'est d'abord l'humain. Ethnologie, anthropologie, quelque part c'est une question de regard et de distance. Mais ce sont les mêmes disciplines, hein, avec des disciplines sœurs que sont la sociologie, mais aussi la psychologie, mais aussi l'histoire et la géographie en quelque sorte.
On peut décortiquer tous les sujets quand on parle de l'humain, c'est assez ouvert.
Oui, par exemple, on pourrait, et ça existe, faire une ethnologie des déchets. Alors, l'archéologie s'intéresse beaucoup aux poubelles, à ce que les humains abandonnent. Et bien sûr, ce sont des indices intéressants pour savoir comment ils vivent, comment ils vivaient du moins. Et aujourd'hui, il y a aussi une ethnologie des déchets. D'ailleurs, il y a une grosse exposition sur les déchets au Mucem à Marseille. Donc les déchets, les décharges, voilà le type d'étude qu'un ethnologue peut faire sur le terrain. Moi, mon objet d'étude, ça a été de m'intéresser à ce que sont les bergers et ce que font les bergers et les éleveurs sur le terrain dans le cadre de leur relation avec l'animal et le territoire. Ça a été surtout ça mon objet d'étude.
Et donc, si on peut commencer aussi à expliquer les projets, puisque vous êtes aujourd'hui au sein de ces beaux territoires, les plateaux des Mille Vaches, pour travailler en duo avec une designer textile lainière.
Oui, c'est
avec
ça.
Florence Willy.
Voilà, Florence que j'ai rencontrée lorsque je travaillais pour un centre d'interprétation des cultures pastorales dans les Alpes, qui s'appelle la Maison du Berger, que j'ai dirigée pendant une dizaine d'années. Et où j'avais accueilli Florence pour monter avec elle une exposition et écrire un livre aussi. C'est elle qui l'a écrit. Moi, je l'ai publié chez un éditeur qui s'appelle Carder Éditeur à Avignon. Son livre s'appelle Métamorphose de la laine. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait, autour de son projet. Et moi, j'ai apporté mon regard sur son travail. Je l'ai aidé, mais dans de très faibles mesures, parce qu'elle est très autonome, à monter son exposition. Voilà, c'était un premier travail ensemble et on avait le désir de retravailler ensemble ailleurs. Donc voilà, c'est ce qui se produit en ce moment, ici, sur le plateau de Mille Vaches.
Donc le CIAP Vassivière, on va dire, il a fait un appel à candidature.
Oui, c'est ça.
Et vous avez répondu avec un projet, oui. Paysage et bien commun.
On a répondu avec un projet en tordant un petit peu justement la thématique du projet, c'est-à-dire que paysage et bien commun nous intéressaient, c'est certain. Mais ce qui nous a beaucoup intéressé de manière un peu facétieuse, ça a été de rajouter « être » derrière le mot « bien », c'est-à-dire « paysage » et « bien-être commun » qui induisait tout de suite une action sur le paysage, mais aussi sur la fabrique du commun. Et ce qui nous a beaucoup intéressé en arrivant ici, c'est de nous apercevoir qu'on était sur un territoire où précisément le concept de fabrique du commun, c'est quelque chose qui est vécu par énormément de gens, de collectifs et d'associations. Donc pour nous, ça a été évidemment pain béni d'arriver ici et de nous apercevoir de ça, parce qu'on ne le savait pas, on ne connaissait pas ni l'un ni l'autre, on ne connaissait ce territoire avant de s'y installer.
Alors quand j'ai accueilli Camille et Florence, on n'avait pas évoqué que Florence vient de Bretagne, par exemple. Là, c'est important. Vous venez d'où ?
Moi, j'arrive de Normandie, mais j'ai fait l'essentiel de mon travail dans les Alpes, même dans les Hautes-Alpes, en les sillonnant du sud vers le nord, en suivant les transhumances. Donc, je suis un Normand nomade, en quelque sorte, mais les Normands ont toujours eu cette vocation à être nomades. Hein, et le peuple normand vient de Scandinavie, est allé jusque sur les rives de la Méditerranée, a même conquis la Sicile et la moitié de l'Italie. Donc, c'est des gens curieux. Je pense que je suis quelqu'un d'assez curieux, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et voilà. Donc, j'arrive du sud de la Normandie, précisément, aux confins avec la Sarthe, d'un petit territoire qui s'appelle les Alpes Mancelles, puisque en déménageant vers le nord de la France, je ne pouvais pas, en quelque sorte, quitter les Alpes.
Bah on va revenir aux Alpes, puisque depuis 2001, vous écrivez régulièrement des articles et des chroniques dans l'Alpe. Donc cette revue trimestrielle sur les cultures et les patrimoines de l'Europe alpine. C'est quoi votre fascination pour ce monde du pastoralisme, de la transhumance ? Comment vous débarquez là-dedans ?
Oui, c'est une fascination d'enfant, je pense. Avec mes parents, on partait à la montagne été comme hiver, dès qu'on pouvait. Donc je pense que c'est un tropisme. Quand on habite les plaines et quand on habite des territoires où il y a du brouillard, etc., on n'a qu'une envie, je pense, c'est de s'élever, c'est d'aller au-dessus du brouillard pour voir ce qu'il y a vraiment. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du brouillard ? Pour savoir ce qu'il y a au-dessus du brouillard, il faut monter au-dessus de 1000 mètres. Vous le savez bien ici, hein, le plateau est à peu près à 1000 mètres. Parfois, il y a du brouillard, il suffit de monter sur certaines éminences quand c'est possible, pour voir le soleil, les oiseaux, la cime des arbres et voir ce qui s'y passe aussi, ce que les gens y font. Donc moi, je pense que c'est ce qui m'a fasciné. Et qui plus est, je pratiquais le cyclisme. Et les Alpes, pour moi, ça a d'abord été une sorte de... Alors non pas un terrain de jeu, hein, comme le disait Leslie Stephen, le père de Virginia Woolf d'ailleurs, ceci dit en passant. C'était pas un terrain de jeu, c'était un terrain vraiment d'exercice de curiosité. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces montagnes ? Comment on peut vivre ici aussi ? C'était une surprise pour moi quand j'étais enfant, du fait qu'on puisse vivre au-dessus de 1500 mètres dans la neige pendant 6 mois de l'année, quand il y avait encore de la neige. Qu'est-ce que c'était aussi que ces drôles d'activités industrielles qui consistaient à brocher les gens sur des tire-fesses, à les monter, à les faire redescendre dans la pente, comme ça, à monter, descendre. Tout ça me semblait absurde et j'en ai même fini par... concevoir une sorte de détestation du ski pour sa dimension industrielle. Et au contraire, j'ai tourné mon regard vers le pastoralisme qui me semblait une activité beaucoup plus mesurée, respectueuse du vivant et rencontrer des gens fabuleux avec les bergers et les bergères avec lesquels j'ai pu travailler et transhumer.
Le pastoralisme, ça va être un élément clé dans notre discussion.
D'accord.
Si nous avons des auditeurs, des auditrices qui se demandent « Mais qu'est-ce que ça peut bien être le pastoralisme ? C'est quoi cette histoire des transhumances ? Comment on explique ?
Comment on l'explique ? On l'explique par le mouvement et par la quête de l'herbe, en fait. Je parle pour les Alpes, hein, mais en général, les éleveurs ovins font bouger leurs bêtes. C'est l'essence même de leur travail, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une culture de la mobilité, mais aussi une très forte mobilité de leur culture, c'est-à-dire qu'ils savent s'adapter. Et dans leur culture de la mobilité, c'est une culture du mouvement. On parle de nomadisme assagi quand on parle de transhumance, mais en gros, transhumer, c'est aller chercher l'herbe neuve là où elle se trouve. Donc quand elle est grillée complètement dans les plaines, il n'y a qu'une solution, c'est de suivre une rivière, suivre un fleuve, monter en altitude et aller chercher de l'herbe fraîche. C'est tout simplement ça le pastoralisme, c'est aller chercher de la ressource herbagère sur pied. Le contraire du pastoralisme, c'est l'élevage intensif qui consiste à laisser les animaux souvent en étable le plus longtemps possible et à leur donner de l'herbe sèche.
Ici, sur le plateau Émilivage, on en parle beaucoup du pastoralisme, puisque voilà, on est sur un territoire qui est d'une certaine façon fédéré par le PNR, déjà, les plans naturels régionaux d'Émilivage au Limousin, Natura 2000, les littorales, le syndicat du mixte du lac des Vassivières, où il y a aussi des missions qui vont dans ces sens du pastoralisme et de la conservation de la biodiversité. Qu'est-ce que vous avez retrouvé ici lors de ces périodes de résidence ? C'est la deuxième séance, c'est ça ?
En fait, c'est une, c'est une séquence de 3 mois consécutifs. Bon, il s'avère que j'ai dû repartir pour des raisons personnelles pendant une semaine par chez moi dans les Alpes-Mancelles. Mais voilà, finalement, oui, pour moi, c'est la deuxième étape, hein, pour parler en cycliste ou en transhumant. Qu'est-ce que j'ai retrouvé de ce que je connaissais déjà ? Mais pas grand-chose, finalement. Du pastoralisme, oui, parce qu'il y a des tentatives et il y a des belles tentatives, mais le territoire est assez déboussolant pour quelqu'un qui est habitué aux grands espaces ouverts des Alpes avec ses grandes prairies d'altitude. Ici, on fait pâturer les landes et les tourbières. Et finalement, il y a très très peu de prairies où on voit des moutons. Les moutons, je les ai devinés dans la broussaille. Ce qui est très intéressant aussi, parce que pâturer la broussaille, bah, c'est une mission, c'est une façon de prendre soin d'un territoire aussi. C'est une façon de le maintenir, de maintenir des espaces ouverts. Donc je les ai cherchés. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire, finalement, en général, il se révèle assez rapidement à moi. Déjà, dans les Alpes, ils portent des cloches. Ici, les cloches sont fort rares, même si j'en ai entendu quelques-unes. Et ça m'a réjoui l'oreille, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai dû les chercher. Et puis, j'ai découvert une race extraordinaire, la race limousine, qui est magnifique, avec des moutons de toutes les couleurs, des moutons bigarrés, des noirs, des blancs. Et assez drôle aussi. Hein. Alors, sur le terrain, j'ai l'habitude de prendre ce que j'appelle des notes photographiques. J'ai fait des photos de brebis assez drôles, quoi. J'ai trouvé qu'elles avaient une bonne tête. Elles me sont fort sympathiques. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la race limousine, la race bovine limousine, dans ces grands espaces ouverts qu'on retrouve du côté de mille vaches, notamment, et des sources de la Vézère. Donc voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est pas tellement de retrouver ce que je connaissais déjà, mais de trouver ce que je ne connaissais pas, justement, toujours ce fameux exercice de curiosité. Et puis ce que j'ai trouvé, c'est la forêt. Et j'étais fort étonné qu'il n'y ait pas d'ailleurs de pastoralisme en forêt, de pas voir tant d'animaux que ça pâturer dans les sous-bois, choses qui se font quand même pas mal dans les Alpes, et notamment les Alpes de Haute-Provence. C'est vrai que j'ai trouvé que les forêts étaient fort peu peuplées. Et puis j'ai surtout trouvé des forêts qui étaient aussi fort sombres et fort militaires, en quelque sorte, très industrialisées, ce qui m'a beaucoup troublé, voire même étouffé au tout début de la résidence.
Et on peut aussi évoquer, vous l'avez survolé, mais le pastoralisme sur les tourbières.
Oui,
ça, c'est presque un défi.
Alors c'est presque un défi, et apparemment c'était une pratique qui n'avait pas eu cours ici pendant très très longtemps, et ce sont certaines expérimentations qui ont été faites, on va dire qu'elles ont démarré il y a une trentaine d'années, notamment autour de la ferme de la Chaux. Voilà, pâturer les tourbières, laisser les bêtes le plus longtemps possible dehors, et même les laisser tout le temps dehors, et montrer que c'est tout à fait possible. Ce qui m'a confirmé, ce qui m'a conforté en quelque sorte dans l'idée, mais qui nous avait été transmise par le paysagiste Alain Frété, qu'on était ici sur un territoire d'expérimentation au pluriel. Et ça, c'est vraiment intéressant, ce regard, cette idée que c'est un territoire d'expérimentation, expérimentation sociale, expérimentation de solidarité, expérimentation agricole, expérimentation alternative en matière de gestion forestière. On expérimente ici. Ça, c'est quand même extraordinaire aujourd'hui d'avoir cette liberté sur un territoire, de pouvoir se livrer à de telles expérimentations aussi dans le respect et en pensant à l'avenir de ce territoire-là et de la façon dont on va l'habiter aussi. La question de l'habitabilité est vraiment au cœur des préoccupations de beaucoup de gens ici sur le territoire, ce qui en fait, à mon sens, pour autant que je puisse en juger, parce que je ne suis pas là depuis très très longtemps, ce qui en fait un territoire évidemment agréable à vivre. Et c'est bien l'essentiel, c'est ce qu'on cherche quand on vient habiter quelque part.
Pour revenir à ces notes photographiques, puisque vous contribuez régulièrement à la cinématique d'images des montages, donc j'avais une question par rapport à comment vous faites pour récolter les informations, puisque si vous étudiez les humains, y a un échange humain.
Oui, un échange humain, c'est même la définition, je dirais, c'est d'abord une relation humaine, l'anthropologie, c'est-à-dire qu'on est face à des gens. Ben on discute, hein, on essaye d'établir une relation la plus bienveillante possible, et puis sans blesser la personne, la questionner dans ses pratiques, la questionner dans ses rêves, dans ses cauchemars, dans ses angoisses, mais dans ses enthousiasmes aussi, dans ses savoirs également. En fait, on s'intéresse à tout. Le but, c'est de passer le plus de temps possible avec des gens qu'on appelle, c'est très très moche comme terme, parce qu'on dit qu'on fait des enquêtes ethnographiques aussi, on a l'air un peu de policiers, on appelle ces gens-là avec lesquels on passe beaucoup de temps, on les appelle des informateurs principaux. En réalité, ça devient des amis, c'est plus des informateurs, moi je me suis fait énormément d'amis. Alors, il faut malgré tout, à un moment donné, reprendre de la distance, sinon c'est plus de l'anthropologie qu'on fait, c'est une simple relation amicale. Il faut reprendre de la distance dans la mesure où voilà, on pose d'abord des questions qui ont une vocation scientifique, une vocation à être analysée ensuite. Quoi. Donc voilà, moi je passe par la relation personnelle, je passe par l'observation, aussi l'observation dans le silence, c'est-à-dire la description ethnographique, noter tout ce qu'on voit, essayer de décrire le plus précisément possible, un petit peu à la manière d'un Georges Perec hein, en quelque sorte. Et puis la photographie, parce que l'œil ne voit pas tout. Par contre, l'œil photographique voit tout. Et quand on peut se poser devant une photographie, qui est aussi une manière d'écrire, on peut voir des choses que nous n'avons pas vues sur le terrain, parce que l'émotion, parce que la fatigue, parce que plein de choses, quoi. Et ensuite, il y a le film aussi, que je pratique finalement très peu. Et les enregistrements qui sont importants, se poser, enregistrer ce qu'on entend, tout simplement, dehors. Parce que je me suis beaucoup intéressé à la dimension sonore du pastoralisme, un troupeau. Qu'est-ce que c'est qu'un troupeau qui porte des cloches ? Il y a une logique dans le fait d'ensonailler, de mettre des cloches aux animaux. On ne met pas n'importe quelle cloche à n'importe quelle bête et on ne choisit pas n'importe quel son pour n'importe quelle montagne. La montagne peut être vue comme une sorte de salle de concert, le troupeau comme un ensemble d'instrumentistes et les cloches comme des instruments. Et tout ça, évidemment, il y a un ordre. Et le berger comme un chef d'orchestre, d'ailleurs. J'ai essayé de filer cette sorte de métaphore pour cette analyse, pour vous donner un exemple, par exemple. Et voilà. Quelle est mon approche ? L'approche de l'ethnologue, elle est multipolaire, en fait. Il faut essayer d'avoir une approche à 360 degrés en utilisant tous les moyens qui sont à notre disposition, l'œil humain, l'observation, l'écoute, l'enregistrement, la photographie, le film, quand c'est nécessaire.
Est-ce qu'il y a une différence entre l'ethnologie ou l'anthropologie, où ça vient s'enchevêtrer, travailler ensemble, on peut éclaircir ces points-là ?
Oui, pour moi, c'est la même discipline, si vous voulez. L'ethnologie, c'est plutôt la façon dont les scientifiques qui s'intéressent à l'humain se définissent en France. C'est une approche ethnologie, anthropologie, c'est une approche plutôt qualitative. La sociologie étant avec une approche plutôt quantitative, mais j'allais dire que c'est des disciplines sœurs, elles marchent sur les mêmes plates-bandes, elles se posent un peu les mêmes questions, sans doute avec des méthodes historiquement différentes, mais au fond, on se pose tous la même question, qu'est-ce qu'être humain sur la Terre, hein ? Et les géographes se posent aussi la même question, et les historiens se posent également la même question, évidemment, dans le temps long, en regardant derrière nous, pour mieux comprendre ce qu'on fait là, et pour mieux comprendre ce qu'on va faire après, en quelque sorte. Donc ethnologie, anthropologie, je n'y vois pas beaucoup de différence. Ethnos, c'est le peuple en langue grecque. Anthropos, c'est l'humain en langue grecque. Qu'est-ce qui compose les peuples, si ce n'est les humains, dans leur relation avec le territoire et les autres vivants ?
Guillaume Lévody, ethnologue au docteur en anthropologie sociale. C'est quoi vos sources au tout début, si on peut se dire comment vous êtes tombé amoureux de cette science sociale ?
Je suis tombé amoureux de cette science sociale par la curiosité, mais je l'ai déjà bien développée, je n'y reviendrai pas. Je pense que c'est par des lectures, et notamment la lecture de quelqu'un qui, à mon sens, est important, parce que c'est un scientifique tous azimuts, à la façon du 19e siècle, un petit peu à la manière d'un Élisée Reclus, et c'est de Théodore Monod, dont je voudrais parler. Théodore Monod, qui pour moi était vraiment quelqu'un qui m'a ouvert à cet amour pour l'humain, cet amour pour la Terre aussi, et tout ce qui la compose. Et puis cette espèce d'omnicuriosité, c'est-à-dire que Monod, c'était d'abord un ichtyologue, il s'intéressait aux poissons à l'origine. Et puis il s'est intéressé, comme vous le savez, au Sahara, il a énormément marché dans ces territoires-là. Il a évidemment trouvé des traces de l'occupation humaine du Sahara et il s'est donc intéressé au mode d'occupation de ces grands territoires par les humains. Voilà, il s'est intéressé à la botanique. Enfin, c'est quelqu'un qui avait une curiosité qui était inlassable. Et pour ça, pour moi, c'est un grand exemple. Donc je l'ai énormément lu et j'ai même correspondu avec lui. Un peu avant sa mort, il m'avait invité à aller le voir et je n'ai jamais osé aller le voir parce que qu'est-ce que moi, à l'époque, qui n'était qu'un ethnologue débutant, qu'est-ce que j'aurais été dire à un monsieur de cette épaisseur humaine comme Théodore Monod ? Et pourtant, je regrette parce que je suis persuadé qu'il m'aurait accueilli avec beaucoup de bienveillance et d'amitié. Évidemment, moi, j'aurais été pétrifié, quoi. Ça aurait été terrible. Mais voilà, des gens comme Théodore Monod, Et puis ensuite, les professeurs que j'ai pu avoir aussi, notamment à Aix-en-Provence, à l'université d'Aix-en-Provence. Je pense notamment à quelqu'un qui m'a, deux personnes qui m'ont beaucoup marqué, qui sont Christian Bromberger, qui est un spécialiste de l'Iran contemporain, qui a fait un travail fabuleux sur l'Iran contemporain, mais aussi sur la Provence quand le terrain iranien s'est fermé. Et puis l'autre monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est un ethnologue de la Corse qui s'appelle Georges Ravis Giordani, qui était un spécialiste de la parenté et avec lequel j'ai appris énormément de choses. Peut-être d'abord la bienveillance avec lui, parce que c'était quelqu'un de foncièrement gentil, mais avec un regard acéré aussi, mais quelqu'un d'accueillant en tout cas.
C'est tout à fait ce que je voulais, des noms, des prénoms, ça matérialise un peu plus ces schémas que vous avez parcourus. Mais aujourd'hui, vous pourriez bien rencontrer Monsieur Monod, Théodore, vous êtes bien affûté maintenant.
Oui, Théodore Monod, en quelque sorte, je le rencontre tous les jours, c'est-à-dire que dans ma discipline, dès que je marche, enfin, je ne dis pas que je pense à chaque fois à lui, mais j'ai le sentiment de l'avoir rencontré. Et surtout, ce que je rencontre, c'est de temps en temps des espèces de Théodore Monod. Par exemple, je pourrais vous donner un jeune homme que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui est venu dans les Alpes à ma rencontre, et une amitié qui s'est développée, qui s'appelle Manuel Witt, W-I-T, qui est le fils d'un grand photographe des Alpes, Pierre Witt. Manuel, pour moi, c'est une sorte de Théodore Monod. C'est un jeune homme qui vient de terminer ses études en paysagisme à l'école du paysage et de la nature de Blois. Je l'appelle paysagiste pérégrin, parce qu'il a vraiment cette qualité-là, à la fois le regard du paysagiste et la bienveillance du paysagiste sur les territoires, mais aussi cette qualité de pérégriner. Pérégriner, ça veut dire ouvrir les yeux aussi, c'est ouvrir les yeux sur le monde, se déplacer, être mobile. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a cette humanité à la Théodore Monod. Donc heureusement, des Théodore Monod, on en rencontre pas souvent, mais heureusement, on en rencontre encore.
Au début de cette interview, on échangeait par rapport à la radio et vous. C'était quand même un élément important pour vous dire, quand même, j'aime bien l'humanité.
Oui, la radio, c'est un outil passeur d'humanité. Les journalistes sont des passeurs d'humanité aussi. Moi, j'ai débuté ma carrière, si on peut dire. J'aime pas beaucoup ce mot-là, si ce n'est le mot carrière au sens vrai du terme, où on peut extraire des pierres. Mais en quelque sorte, nos trajectoires sont des façons d'être dans une carrière où on extrait des pierres d'humanité, des pierres de vie, une à une. Et une des premières pierres que j'ai extraites de cette carrière, c'était la radio. En effet, j'étais journaliste pendant un petit moment, pendant une dizaine d'années, je pense, avant d'être anthropologue, puisque c'est une reprise d'études. J'avais 30 ans quand j'ai désiré vraiment reprendre des études et faire de l'anthropologie. Mais en effet, je travaillais dans une radio associative du même type que celle de Radio Vassivière, qui s'appelait Radio FMR, FM Rouen, puisque c'était en Seine-Maritime. C'était une radio de gauche revendiquée et qui s'intéressait à la culture essentiellement, pour laquelle j'étais journaliste, animateur, et où j'animais une émission sur le rock indépendant aussi qui s'appelait L'étoffe des blaireaux. Et on était une belle bande de blaireaux à l'époque, en effet.
Bon, un petit coucou à nos confrères des radios éphémères, hein, c'est ça ?
Radio éphémère, oui, qui n'existe plus. Hein.
C'est ça.
Elle a été éphémère, oui.
Oui, carrément. On revient sur les plateaux Émile Vache. Qu'est-ce que vous avez retrouvé ici ? Est-ce qu'on peut dévoiler ? Je sais qu'il y a une restitution le 21 novembre. On l'a bien indiqué lors de dernière rencontre avec Florence et Camille. Mais est-ce qu'on peut déjà faire un petit aperçu de qu'est-ce que vous avez trouvé de beau ici ? Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé de tout court, hein ?
Qu'est-ce que j'ai trouvé ici ? J'ai trouvé à réfléchir avant tout. J'ai trouvé à réfléchir autour de cette thématique. La thématique me paraissait vraiment bien trouvée, c'est-à-dire paysage. On est dans un grand paysage ici. On est dans des grands paysages et bien communs. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment ici une attention au territoire dans le sens où on est dans une sorte de fabrique collective du bien commun, et aussi une attention justement au commun, au sens pluriel du terme. Qu'est-ce que c'est faire monde commun ? Il me semble que quelque chose, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai eu le sentiment que quelque chose était en train de se faire ici, et se faire au sens où on fait quelque chose à la main, une fabrique du commun un peu artisanale. Alors je me suis demandé, moi, comment dans ma pratique d'anthropologue, et comment, dans le cadre de cette résidence, donner corps à cette idée-là, la fabrique du commun de manière artisanale sur un territoire dans le but de bien y vivre. Je reviens à notre fameux concept initial de paysage et bien-être commun. Donc le résultat, vous le verrez, en effet, le jeudi 21 novembre à 15h au château de Vassivière, avec d'abord le travail de Florence Huillet, mais je pense que Florence en aura parlé, et puis mon travail d'ethnologue, ce qu'il en résulte, et qui n'est pas en fait très orthodoxe. C'est pas une façon très orthodoxe de montrer le travail d'un ethnologue. Un ethnologue, en général, qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit des livres, il écrit des articles. Qu'est-ce que j'allais faire, moi, en 3 mois ? Est-ce qu'il était possible que j'écrive un article ? Sûrement, mais ça aurait été des impressions. Que j'écrive un livre ? Non, il n'en était pas question, et ça demande beaucoup plus de temps. On ne peut pas saisir un terrain en l'espace de 3 mois. Donc, vous verrez, j'ai essayé de condenser quelque chose. Dans la commande, j'avais eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de l'ordre du fait de parcourir le territoire et le donner à parcourir aussi aux gens qui vont découvrir les travaux qu'on va faire. Moi, mon idée, ça a été de créer quelque chose. C'est un travail, je ne peux pas dire que c'est une œuvre, je ne suis pas un artiste, je suis d'abord un scientifique, mais j'ai voulu en quelque sorte engrammer mon travail, ma pensée, en écrivant la mine de graphite dans un petit livre qu'on appelle un Leporello, qui s'ouvre en accordéon et qui fait 10 mètres de long, aller et retour, et qui s'enferme sous une couverture en ardoise de Travassac, c'est-à-dire au sud de ce territoire, quasiment à Brive, et qui se referme, la quatrième de couverture, c'est un granit du Châtaigneau, juste à côté. Donc l'idée, c'était d'avoir une vraie couverture, une tuile, une ardoise, et puis d'avoir un vrai socle, la quatrième de couverture, qui soit le granit, qui est le socle même du plateau de Mille Vaches. À l'intérieur de tout ça, il y a des écrits, il y a ce que j'ai ressenti sur le territoire, il y a les lectures que j'y ai faites, il y a les analyses que j'ai pu faire aussi. Et puis il y a la question de la langue. La question de la langue m'a beaucoup intéressé sur ce territoire, sachant qu'on est ici en territoire occitan. La langue maternelle d'ici, ça n'est pas le français, c'est la langue occitane. C'est un occitan très particulier, ce n'est pas le même occitan que celui qu'on parle en Provence ou dans les Alpes, par exemple. Et j'ai voulu la rendre, cette dimension-là, en faisant une phrase de 10 mètres de long, qui n'est pas en occitan, mais qui est la façon dont j'ai vu que le territoire parlait encore sa langue maternelle. C'est-à-dire que tous les toponymes qu'on croise, l'essentiel des toponymes, des noms de lieux, ce sont des noms qui sont en occitan ou qui parlent encore l'occitan. Donc voilà, il y a une phrase dans ce petit livre qu'on déplie en accordéon, il y a une phrase qui fait 5 mètres de long, et qui finalement est tout en occitan. L'autre phrase qui borde cette phrase en occitan, c'est une phrase qui fait aussi 5 mètres de long, qui serpente tout le long du livre, et qui parle de l'eau. Parce que l'eau, évidemment, et la gestion collective de l'eau, et l'avenir de la gestion collective de l'eau aussi, c'est, à mon avis, une question fondamentale ici sur ce territoire, où il pleut quand même pas mal, peut-être autant qu'en Normandie d'ailleurs, je le dis de manière un peu facétieuse, quoi qu'il fasse très beau en ce moment. Mais en tout cas, il y avait une gestion collective de l'eau et j'espère vraiment que ce territoire-là sera aussi un territoire d'expérimentation en gestion de l'eau comme bien commun. Je pense que c'est une grave question, pas seulement sur le territoire de Mille Vaches, mais sur tous les territoires en France et en Europe.
Et partout dans le monde, c'est un sujet vraiment vedette cette année. On voit la COP19, la fête des simples, tout est autour de l'eau. Et comment on fait pour travailler avec une designer textile, lainière ? Comment ça s'articule entre vous ?
C'est d'abord une histoire d'écoute et de respect entre nous. Ensuite, une histoire de friction, je pense, de la même manière qu'on produit du feutre en frottant, des fibres. Évidemment, entre art et science, il est nécessaire, à mon sens, qu'il y ait des frictions. Pour moi, c'est des disciplines qui ne s'excluent pas et au contraire qui se complètent et qui sont en dialogue. Donc il y a eu dialogue, il y a eu friction nécessaire. Il y a eu respect entre nous, écoute, observation de ce que l'un fait et l'une fait aussi, de voir qui on a envie d'aller voir, de comment on écoute les gens aussi. Et puis moi, dans ma pratique anthropologique, j'ai toujours été finalement attentif à tout ce qui se faisait en matière artistique, voire même à franchir le pas. J'ai fait du théâtre, notamment en utilisant la matière anthropologique, notamment en m'intéressant à une bande dessinée qui s'appelle Le génie des alpages, et où j'ai fait un vrai terrain d'anthropologie en ouvrant les 14 tomes de cette bande dessinée de FMUR. Donc faire l'ethnologie d'une bande dessinée, c'est s'intéresser à un type d'art, le 8e ou le 9e art, je ne sais plus comment on l'appelle, la bande dessinée. Donc voilà, j'ai toujours été très sensible à la démarche des artistes, et puis les surréalistes et les anthropologues à l'époque de Claude Lévi-Strauss, de André Breton, ont beaucoup cheminé ensemble, ont eu les mêmes objets de curiosité. Donc évidemment, c'est un domaine qui ne m'est pas du tout étranger, de la même manière que Florence a emprunté, vous verrez aussi, le 21 novembre à 15h au château, vous verrez qu'elle a emprunté des méthodes à l'anthropologie. Je pense que voilà, on a réussi quelque chose, c'est à faire dialoguer nos disciplines, à les faire en quelque sorte, rentrer en écho. Voilà, il y a chacune des œuvres, on va dire, au sens strict du terme, opéra, le travail, chacune des œuvres qu'on va présenter, il y a un écho. Chacun a notre pratique. Moi, de mon côté, il y a un écho à une pratique artistique, et elle, de son côté, un écho à une pratique anthropologique. Donc, pour moi, la rencontre entre art et science, la conjonction de coordination est importante. À mon sens, elle est pleinement réussie.
On arrive en douceur à la fin de cette interview, mais on ne va pas se quitter sans avoir parlé que vous êtes aussi directeur des collections Orlé Drail et Regard d'ailleurs chez Carder. Donc rappelez aussi que c'est votre site internet carder.fr. Qu'est-ce que ça veut dire Carder et de quoi s'agit toutes ces collections?
Carder, c'est une histoire de laine. Hein. Le chardon Carder, c'était ce chardon à carder la laine qu'on enfilait sur des tiges. Qui ensuite qu'on mettait à rouler pour carder la laine de manière proto-industrielle, on va dire, avec du végétal. Hein, le chardon Carder, c'est l'inventeur du velcro, en quelque sorte, qui retient la matière textile. Donc on parle encore de laine. Voilà, les deux collections chez Carder, qui est un éditeur spécialiste en pastoralisme, mais aussi en poésie d'ailleurs, où je vais d'ailleurs publier bientôt, début 2025, un ouvrage à la fois d'ethnologie et de poésie. Les deux collections, Orlé Drail, c'est une collection qui vise à regarder autrement le pastoralisme, un regard de biais sur la discipline pastorale, parfois un peu facétieux, voire même impertinent. Orlé Drail, c'est sortir des sentiers battus. Les drails, hein, ce sont les sentiers, les petits chemins qui sont faits par les brebis et que toutes les brebis prennent. Mais parfois, il y a des brebis qui s'écartent et nous, on a voulu s'écarter un peu. Et regard d'ailleurs, c'est une façon de regarder ce qui se passe ailleurs aussi, parce que regarder ce qui se passe autour de nous, c'est très intéressant. Regarder le nombril, pas du tout. Mais regarder ailleurs, c'est fort intéressant. Et évidemment, c'est aussi le regard de l'ethnologue. Donc regard d'ailleurs, c'est une collection photographique avant tout, qui permet de réfléchir à ce qui se passe ailleurs et comment aussi on regarde et comment on considère l'ailleurs comme un autre territoire d'humanité.
On invite nos chers auditeurs, nos chères auditrices à visiter votre site internet qui est fort intéressant, donc carder.fr, carder.fr. Guillaume Lebody, est-ce qu'on a loupé des questions? Parce que je viendrai les 21, hein, on va reparler, on va donner une suite quand même. On a encore plein de choses à savoir et on a surtout beaucoup de curiosité pour voir qu'est-ce que ça va donner, cette duo dynamique entre Florence Willet et vous-même.
Oui, je ne sais pas si on a raté des questions. Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si tant est qu'on puisse jamais un jour faire le tour de quelques questions que ce soit, parce que les questions ont cette propension, un petit peu comme les chevreuils dans les forêts, à nous regarder et puis ensuite à fuir. Et voilà, on ne cesse de les poursuivre. C'est une question de pistage, comme dirait Baptiste Morisot. Une question de furtivité aussi. Ça, c'est une notion très très intéressante. Et c'est de tout ça dont va parler nos travaux finalement, le pistage, la furtivité, l'humanité, le soin, la question du soin apporté à l'autre, la question de l'accueil, mais la question du soin, je pense, est centrale vraiment et rejoint vraiment notre intention première quand on a répondu à cet appel à projet, paysage, ok, bien commun, très bien, paysage et bien commun, ah, c'est vraiment intéressant, mais paysage et bien-être commun, là tout de suite on commence à respirer et à mieux comprendre ce qu'on fait là.
Et c'est pas évident non plus, parce que c'est le bien-être, c'est subjectif.
Le bien-être, c'est subjectif, mais le bien-vivre, c'est quand même un bel objectif.
C'est bon, j'aime bien. Juste pour vous faire écho à votre propos avec Christian Bromberger, on l'a fait venir en 2014 à la Cité internationale de la tapisserie. Je l'ai rencontré, je travaillais sur un projet d'art contemporain autour du tissage turc. Et lui, il a fait une conférence que je ne vais jamais oublier, qui s'appelait « La place des cheveux et des poils dans les rituels et les sacrés voilà. » pour revenir au sacré.
Oui,
ça
oui,
m'intéresse
oui.
beaucoup, donc j'ai dit, je ne vais pas vous laisser partir sans parler de sacré, puisque vous aussi, vous avez travaillé sur les patrimoines sacrés alpins, par
oui,
exemple.
Oui, j'ai travaillé notamment sur les pèlerinages, puisque m'interrogeait beaucoup le fait qu'on doive marcher dans un but religieux. J'avais notamment travaillé dans ce qu'on appelle la vallée des merveilles, dans la vallée de la Roya, cette vallée qui a été touchée par une grosse tempête, Alex, il y a quelques années, où il y a un site de l'âge du bronze qui est extraordinaire, qui est une montagne sacrée où les hommes se rendaient nécessairement à pied. Il n'y avait pas d'autre moyen à l'époque de s'y rendre. C'est une montagne qui est plus de 2000 mètres d'altitude, 2500 mètres d'altitude, où ils ont gravé, ils ont fait des gravures par milliers, et ceci sans doute dans un but propitiatoire, le fait de rendre les choses propices au fait d'habiter la terre, voilà, et notamment au fait de recevoir de la pluie, de l'eau pour féconder les cultures. Donc voilà, m'interrogeait beaucoup que ce soit quelque chose qui continue. Et j'avais notamment été travailler dans un site d'altitude, un site religieux d'altitude, qui est le plus haut sanctuaire d'Europe, de sanctuaire de pèlerinage, qui se trouve à la frontière entre la France et l'Italie. Donc voilà, comment se fait-il qu'on continue de marcher dans un but religieux? Ben voilà, le pèlerinage à Saint-Jacques, j'ai vu que le chemin de Saint-Jacques passait par le plateau de Millevaches. Le pèlerinage à Saint-Jacques, on est la belle démonstration quoi, encore aujourd'hui.
Bon, Guillaume Lebody, on va se quitter. Et je veux bien vous remercier encore une fois d'avoir accepté cette invitation, inviter nos auditeurs, nos auditrices. Le 21 novembre, la restitution, est-ce que nous avons un horaire?
C'est à 15h, ça durera entre 15h et 17h. Alors non seulement il y aura des choses à voir, mais aussi à entendre et puis à nous rencontrer. Et nous, on est aussi très curieux de rencontrer les gens qui vont venir, mais il y aura aussi des choses à manger et à boire, figurez-vous. Donc voilà, venez nombreuses et nombreux.
Ça, c'est une belle phrase d'accroche. Donc, paysage et bien-être commun. Cette interview a été réalisée dans le cadre de la quotidienne. Vous pouvez écouter, réécouter, podcaster cette émission sur radioalzire.com, mais aussi sur les sites internet du Centre international d'art et du paysage. Et bien entendu, vous pouvez nous écouter sur tout le plateau de Millevaches, mais aussi partout dans le monde sur nos sites internet. Merci Guillaume Lebody, ethnologue, docteur en anthropologie sociale. On se tient au courant. À très bientôt.
Merci Nini, à bientôt.